Laetitia Agostini, notre jardinière, est à nos côtés. Bonjour Laetty.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Bon, ravie de vous accueillir ce samedi matin, comme d'habitude, j'ai envie
de vous
dire.
Le plaisir est toujours partagé.
C'est vrai, en plus.
Ouais.
Non, mais des fois, on peut dire qu'on est hypocrite, que c'est tout à fait faux.
Un peu, quand même. Mais...
Eh bien, pas moi, mademoiselle. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à vous recevoir. Et tous les samedis, malgré
les
votre
samedis.
Mauvaise humeur.
Voilà, d'abord.
Récurrente.
Récurrente, ça, on peut le dire.
Bonjour Hélène, vous êtes à Pontelletch.
Oui, bonjour.
Merci
bonjour,
d'être à nos côtés pour
une... les deux. Voilà, oui. Moi j'ai un petit souci avec deux orchidées. Bon, j'en ai plusieurs, elles sont magnifiques, toutes fleuries. Mais il y en a deux, il y a les feuilles qui jaunissent.
Ah, alors là, est-ce que les feuilles jaunissent tout en restant, je dirais, avec leur aspect normal?
Oui,
ou est-ce
oui.
qu'elles jaunissent en se desséchant?
Voilà, elles se dessèchent.
Alors c'est pas grave, ce sont des feuilles du bas?
Oui, voilà.
C'est pas
ça.
Grave, c'est parce que les feuilles des orchidées, elles vivent déjà pas mal d'années. Et donc, au bout d'un moment, la feuille, elle arrive quand même en fin de vie. Et quand
voilà.
ce sont les feuilles du bas, c'est pas grave. Par contre, on les laisse sécher tranquillement et vous allez voir, un jour, à peine vous la touchez, elle se détache.
Ah, d'accord.
Voilà.
Non, moi, je pensais que c'était trop d'arrosage, mais c'est pas
non,
ça.
Non, non, c'est pas trop d'arrosage. C'est souvent les dernières feuilles, celles à la base. Et
voilà.
Au bout d'un moment, ça fait 5, 6, 7 ans qu'elle y est, la feuille, elle a fait son travail.
Oui.
Elle a fait son temps.
Voilà, d'accord.
Voilà.
Eh ben, je vous remercie.
De
Bonne
rien.
Journée.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Alors, cela dit, Hélène a un bon réflexe. C'est vrai que les feuilles, on doit les surveiller et que souvent, c'est un problème d'arrosage lorsqu'elles se ramollissent, par
voilà.
exemple.
Mais en fait, l'orchidée, elle est quand même, comment dire, assez expressive grâce à son feuillage. Quand on a une feuille qui se ramollit ou qui développe un peu des zones noires ou autres, là, c'est un problème de trop d'eau. Par contre, quand on a des feuilles qui commencent comme ça, vraiment, celle de la base à se sécher et puis on voit vraiment apparaître comme des nervures en relief dessus. Là, c'est que les feuilles, elles font plusieurs années et donc elles
sont en fin de vie, elles vont
voilà.
se détacher tout doucement et on s'inquiète
mais
pas.
Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Du moment qu'on a aussi des belles racines, il faut regarder chez l'orchidée les feuilles et les racines. Quand les racines, elles sont vert-gris un peu, ça veut dire que quand on les met dans l'eau, elles redeviennent bien vertes, elles absorbent tout ce dont elles ont besoin.
Elles ouvrent tout leur corps.
Voilà, et donc c'est que c'est une orchidée qui va bien.
Merci jeune fille pour toutes ces précisions. On va retourner au standard. Parce qu'au bout du fil nous attend Angèle de Mezzavia pour poser sa question à propos des agrumes. Bonjour chère madame.
Bonjour, bonjour à toutes les deux et à tout le monde.
Bonjour.
Voilà, moi j'ai un souci, j'ai tous mes citronniers et mon oranger aussi. Et j'ai toutes les feuilles qui se recroquevillent, elles sèchent, elles tombent.
Alors là, vous avez plusieurs problèmes, d'après moi. Et d'une, vous devez avoir une attaque de cochenille ou quelque chose dans le genre.
Donc, mais il n'y a pas de blanc dessus. Enfin,
non, mais en fait...
Des fois, ça, non.
En fait, si vous voulez, il y a plusieurs sortes de cochenilles. Vous avez la cochenille, des cochenilles qui ont l'air un peu farineux, dont la cochenille farineuse. Et puis, par exemple, sur les agrumes, on a la cochenille chinoise. Moi, je la trouve magnifique, mais en fait, elle n'est pas très bien pour nos agrumes. C'est une cochenille qui est orange, et quand elle est petite, on la voit un petit peu blanche. Mais quand elle devient plus grosse, en fait, elle a des pics de cire blanche. Et on dirait un peu les Pokémon, quoi. Elle est trop forte, cette cochenille. Et celle-là, là, elle ne donne donc pas cet aspect duveteux blanc. Et donc,
non,
quand on a, quand
pardon,
on a des feuilles...
Feuille. Ah.
Oui, allez-y.
Sur certaines feuilles, je vois comme des taches oranges.
Et oui, et ben, donc là, vous avez peut-être bien de la cochenille. Il peut y avoir de la cochenille, il peut y avoir du pou de Californie sur les agrumes.
Non.
Il peut y avoir tout un tas de parasites, de ravageurs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vos arbres ne sont pas très grands, vous pouvez essayer le traitement au savon noir. Sinon, on peut aussi traiter avec des huiles ou sinon, vous allez en jardinerie et vous vous renseignez pour un insecticide biologique.
J'ai été en jardinerie et je l'ai montré donc, sur le téléphone. Il m'a dit que c'était de la mineuse.
Alors la mineuse, on la reconnaît parfaitement bien parce que la feuille, elle ne se recroqueville pas, mais on voit une galerie avec une traînée noire à la surface supérieure de la feuille.
D'accord.
La mineuse, on la reconnaît grâce aux mines qu'elle fait sur sa feuille. Donc, quand vous me parlez de feuilles qui se recroquevillent...
Il y a peu de chances que ce soit la mineuse.
Voilà.
Bon, parce qu'il avait un produit, je dirais, qui vend de tout près, au litre, un produit blanc. Mais ce que c'est, j'en sais rien, je m'a rien dit. Et il m'a vendu ce produit. Et par contre, sur les orangers aussi, et sur le clémentinier, le bout des feuilles s'enroule, c'est tout enroulé. Et il m'a dit de tout couper, que c'était de la tordeuse.
Ouais, non, là, c'est un peu radical. Moi, je pense que vous avez une attaque de ravageur. La mineuse, oui. Si vous pratiquez Internet, vous pouvez regarder les symptômes. Ils sont
nets,
vraiment nets et francs. Hein. On voit vraiment la mine tracée comme un petit labyrinthe sur la face supérieure de la feuille. Parce que, en fait, la chenille se développe vraiment sous la première pellicule cireuse de la feuille. Donc, on la voit, c'est vraiment inratable. Et pour tout ce qui est les feuilles qui s'enroulent, moi je dirais plutôt que vous avez de la cochenille. Après, quand ce sont les jeunes feuilles du bout qui se tordent, ça c'est un problème fréquent sur les agrumes et c'est juste dû à un petit problème d'alimentation.
Non, ça s'enroule quand même, hein. C'est tout enroulé. Ça fait...
Ouais, mais vous allez voir que laissez-les pousser, elles vont se redresser. Par contre, apportez de l'engrais parce que parfois c'est un problème lié à l'alimentation minérale de notre arbre.
D'accord. Et le produit, qu'est-ce que je vais leur passer? Alors, on m'avait dit le savon noir et après...
Ou sinon, il faut regarder un insecticide. Donc, à la limite, regardez l'insecticide qu'on vous a vendu contre la mineuse s'il fait pour tous les problèmes des agrumes.
Eh oui, mais il n'y a rien. C'est une bouteille en plastique avec du produit blanc dedans.
Il n'y a rien écrit.
Non. Non, c'est pas la première fois. Une année aussi, je l'avais acheté, bon, il y a longtemps. C'est un produit qui est préparé par eux et
même voilà, pas de précaution d'utilisation mentionnée.
Non, rien du tout.
Étiquette.
C'est une bouteille en plastique Volvic et voilà.
D'accord.
Alors je retournerai auprès de lui pour lui demander quand même ce que c'est.
Oui, voilà, voir si ça peut faire
avant
aussi contre les cochenilles.
D'accord. Voilà. Juste vous demander, est-ce que je dois retirer les fruits qui sont sur les arbres?
Oui, parce qu'on arrive en fin de saison et que bientôt il va y avoir la nouvelle floraison et en plus il va falloir les tailler là les arbres.
Bon.
Voilà. Okay.
Merci
remercie,
Angèle pour votre appel et
bonne journée.
Et au revoir.
Merci à vous, au revoir.
On reparle de citronnier en balcon cette fois chez Marie à Bastia. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous écoute.
Bonjour à toutes les deux. Bon, j'ai un petit peu écouté tout ce que vous avez dit sur les citronniers. Alors voilà mon problème. J'ai un citronnier donc sur un balcon dans un grand pot, mais il y a beaucoup de bourgeons.
Oui.
Énormément de bourgeons. Il y a quelques fleurs qui commencent à s'ouvrir. Mmh. Il me reste 3 citrons de la saison précédente et je voulais savoir ce qu'il fallait que je fasse au niveau des bourgeons. S'il fallait que j'en supprime quelques-uns, lesquels, comment.
Alors, la première chose à faire, c'est supprimer les 3 citrons de la saison précédente.
D'accord.
Là, d'abord, parce qu'on arrive à avoir les fleurs et les fruits qui se croisent, mais s'ils sont à maturité, vous les sortez et puis vous faites une tarte au citron, par exemple. Et ensuite, pour ce qui est des bourgeons, une fois que vous avez sorti les fruits, vous allez tailler un petit peu votre arbre, éclaircir, enlever toutes les branches qui partent vers l'intérieur et autres.
Excusez-moi, je vous interromps, je l'ai fait il y a longtemps, parce que là, maintenant, avec les bourgeons dessus, je ne sais plus quoi tailler.
Eh bien, maintenant, vous l'avez fait il y a longtemps, c'est-à-dire il y a un an, il y a...
Non, il y a peut-être 2 mois, 2-3 mois.
Oui, alors normalement, la taille, elle se fait une fois qu'on a sorti les fruits et au moment... un petit peu avant la floraison. Donc, à la limite, si votre arbre, vous trouvez qu'il a encore besoin d'être taillé, vous lui refaites un petit peu de taille, même s'il y a des bourgeons. Et puis, vous allez voir après que tous les bourgeons toutes les fleurs ne vont pas être fécondées. Donc, vous ne laisserez que quelques fruits pour manière qu'ils soient disposés de manière homogène sur l'arbre et pour que l'arbre puisse les mener à bien.
Très bien.
N'hésitez pas, là, maintenant, comme il commence à y avoir les fleurs, à faire un apport d'engrais, de fumier ou autre.
Très bien. Bon, mais c'est parfait. Je pense que j'ai bien compris tout ce qu'il fallait faire.
Ah, elle est claire, la dame. Hein, vous avez vu? On a engagé la meilleure. Hein.
Je me régale. Le samedi matin, je l'écoute avec beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup,
très
Marie,
gentil,
de votre appel et à bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir. Merci.
La suite de vos appels et des conseils de Laetitia Agostini, notre jardinière, professeure en horticulture au lycée agricole de Borgo, qui bientôt vous proposera un salon des métiers du monde rural. Ce sera le 8 avril et nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr. d'or sur RCFM, c'était Niagara. Laetitia, ça va, vous n'avez pas la bouche pleine, vous hein?
Non.
Elle est restée sobre.
Et puis nous, on ne dort pas.
Ni café, ni thé, ni pain au chocolat. Un vrai chameau. Un peu d'engrais, me dit Nathalie, pour arroser la belle plante que vous êtes.
Oh, comme c'est gentil. Vous allez me faire
rougir. C'est moi qui l'ai rajouté, la belle plante. Isabelle, vous allez bien ?
Oui, je vais bien.
Bon. Vous ne nous supportez plus toutes les bêtises qu'on débite par heure, j'imagine ? Ou ça va ? Vous pouvez encore nous supporter ?
Ça va. C'est pas du tout des bêtises. C'est, ça donne beaucoup d'informations aux gens qui vous écoutent. Voilà.
Tant mieux.
Alors, oui, en ce qui me concerne, je suis inquiète pour mes deux chaînes dont le tronc est attaqué par, je ne sais pas si c'est les fourmis ou d'autres insectes qui ont préparé les trous pour les fourmis. Il y a sur à peu près un mètre en bas du tronc, il y a l'écorce qui est tombée. On voit que le bois, il est mort hein, sur la moitié du tronc et il est parsemé de trous. D'où sortent des fourmis noires à tête rouge. Voilà. Alors, je pense que ces chênes ont dû être abîmées par un feu qui a été fait à côté d'eux. L'écorce a dû chauffer ou brûler, ce qui fait que ça a fragilisé le bas du tronc. Et maintenant, on vient de s'en rendre compte maintenant. Maintenant, on voit que franchement, il est bien attaqué par ces bestioles et on voudrait savoir si ça peut se régénérer. Et deuxièmement, comment supprimer le problème, comment tuer ces bêtes. Voilà.
Alors, première question, c'est quel type de chêne ?
Un chêne liège.
D'accord. Bon, alors déjà, ça me rassure un petit peu. Le chêne liège, en fait, qu'il ait perdu le liège, ce n'est pas du tout embêtant, vu qu'avant, oui. On faisait la subériculture, c'est-à-dire la récolte du liège.
Oui.
Et donc, ça, c'est pas grave. Hein. En plus, les chênes lièges, ils résistent mieux au feu de par cette écorce, ce liège qui les protège. Effectivement, après, vous avez dû avoir une petite attaque d'un parasite lambda qui a fait des tout petits trous un peu plus gros que des têtes d'épingle, c'est ça ?
Ah non, ils sont plus gros, beaucoup plus gros.
Beaucoup plus gros, exactement.
Ah oui, les trous sont beaucoup plus gros que les têtes d'épingle. C'est, comment dirais-je, c'est des trous qui sont à peu près, par rapport à une tête d'épingle, 50 fois plus gros. Enfin, ils sont beaucoup plus gros. Hein.
D'accord. Alors, je pense quand même qu'il y a eu une attaque de parasites. Après, le chêne, je ne pense pas que son bois soit complètement mort. Et les fourmis, elles sont venues se nicher là parce que, en fait, sur le chêne dégage beaucoup de miella. Et donc, les fourmis viennent récupérer le miella du chêne pour nourrir ensuite leurs larves.
Oui, elles sont des opportunistes.
Voilà.
Comment faire pour... j'ai peur que le chêne meure parce qu'il est quand même bien, bien entamé et on voit que là où il y a les trous, ça fait au moins un mètre. On s'en est rendu compte juste maintenant hein, parce qu'il est au fond du jardin. Et on voit manifestement que le bois est mort.
Alors, donc ça fait à peu quoi près vous voyez que le bois est mort ?
Ben, il est blanc, on voit qu'il n'a pas de sève, il n'a pas de vie. Hein.
Il est gris
Oui, il est, alors... il est comme le du bois mort, vous voyez, il perd sa... Et on dirait qu'il est plus léger, enfin il est...
Ouais, ouais. Alors là, si le bois il est mort, il n'y a rien à y faire. Hein. Quand c'est mort, c'est mort. Par contre, le bois, l'arbre arrive à recréer des nouveaux réseaux pour la circulation de sève, etc. Et donc, si l'arbre est encore solide, je dirais...
Au moins, c'est sur une partie, disons un quart du tronc, la partie droite est morte, mais l'autre partie est vivante. Et le chêne est toujours vivant. Et j'ai peur que ça se propage. Voilà.
Non, ça ne se propagera pas. Parce que si vous dites que c'est le feu qui l'a endommagé, ben le feu...
Non, je présume qu'en faisant un feu à côté, on a dû endommager l'écorce, ce qui a permis à des parasites d'attaquer. Je présume, mais j'en sais rien. Hein.
Moi, je pense que c'est possible que s'il y a eu le feu à côté, ça ait endommagé l'écorce, brûlé le bois... Oui. et donc détruit ce bois. En fait, le bois, il a cuit. Il n'a pas été brûlé, non. Mais il a cuit par par conduction, convection, je sais pas, je suis pas physicienne, mais donc le bois a cuit, mais l'arbre, s'il se porte toujours bien, si au niveau de la cime de l'arbre, vous ne voyez pas de dépérissement, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Ah d'accord, donc vous pensez, parce que le bois il est blanc, hein, il n'est pas noir, il n'a pas été brûlé, hein,
oui.
Le bois, hein. Il a eu à la limite
non, mais
la
il a chaleur peut-être, trop il a peut-être il a, un coup de chaud, voilà.
Il a cuit à la vapeur sous son écorce qui a chauffé.
Ah bon, alors vous pensez que ces gros trous, c'est pour... mais il y a ces trous, donc c'est une bête qui l'a fait. Ce
oui,
trou.
Mais ça, quand on se promène en forêt ou autre, on en voit beaucoup, hein, des petits trous comme ça, le bois piqué.
Ils sont gros, hein, ces trous. Hein. Ils sont gros, je dirais, par rapport à... ils sont à peu près comme un ongle de petit doigt, vous voyez.
Oui.
Le petit.
Ouais, ouais, je vois. Je vais essayer.
Ovale,
ce que je peux,
voilà.
Oui. Ce que je peux vous proposer, c'est de rechercher parce que je le reconnais, les arbres de la forêt, c'est pas non plus ma grande spécialité. Je connais quelques trucs, mais après, je suis désolée, je ne connais pas tout. Et d'après moi, c'est pas bien grave parce que souvent on en voit. Mais ce que je fais, c'est que je recherche pour la semaine prochaine et j'essaierai d'apporter une réponse.
Merci, Laetitia. Et merci Isabelle pour votre question. On va reparler d'un chêne, Letty, parce que Paul d'Ajaccio nous avait alerté sur les plaies du sien la semaine dernière et on n'avait pas visualisé encore l'étendue des dégâts de ce chêne mal en point. Il nous a envoyé cette photo. C'est vrai que c'est une plaie qui suinte, qui n'est pas très belle. Hein.
Oui, alors je regardais grâce à la photo hein, cette semaine. Je n'ai pas trouvé vraiment d'explication parce que quand on regarde la photo, on ne voit pas vraiment d'attaque de part parasite ou autre, il peut y avoir eu une blessure causée par un problème lambda. Et d'après moi, le chêne a cicatrisé. Après, ce n'est pas une blessure qui est très profonde. Le fait qu'il y ait des écoulements comme ça, noirâtres, c'est des écoulements de tanins. Et
c'est pas trop préoccupant.
Non, notre
chêne... Parce qu'elle n'est pas belle, hein, cette plaie, c'est vrai.
Elle n'est pas belle, mais c'est sa manière au chêne de cicatriser. Donc, moi, je conseille à l'auditrice de continuer à les observer. Si ça s'augmente, ben, à la limite, qu'elle nous renvoie une autre photo. Mm-hmm. Et puis... d'après moi, d'ici un an ou autre, ça aura cicatrisé.
Bon, oui. Tant tout meilleur. On ne met pas de mastic, par exemple,
non.
Pour aider
Le mastic, on le met sur les plaies de taille pour cicatriser. Mais quand là, l'arbre... je vais dire quand les arbres, entre guillemets, sauvages, comme les chênes, commencent à mettre en place tout leur dispositif de cicatrisation, si nous, on met du mastic, on va empêcher cet écoulement. Et cet écoulement, c'est tanin. Ça protège... Déjà, les tanins sont toxiques. Donc, c'est ça qui protège les arbres contre tout un tas de ravageurs. Et donc, on va le bloquer plus qu'autre chose.
C'est un peu comme l'idée d'une plaie humaine qu'on devrait laisser sécher à l'air.
Voilà.
Hein, ok, ça marche, on a bien compris. J'espère que Paul, vous étiez à l'écoute hein, d'Ajaccio. Marie, bonjour, vous êtes à Ghisonaccia.
Oui, voilà, moi j'avais déjà appelé pour le camélia en oui. pot mm-hmm. que j'ai. Et Laetitia m'avait dit c'est de la fumure, hein, c'est ça. Et j'avais mis du savon noir.
De la fumagine, pas de la fumure.
La fumagine. Ouais. Et j'avais mis du savon noir. Mm-hmm. Bon, il était en train de fleurir, donc il a fait ses boutons, mais il réussit, ses boutons tombent, ou il en a ouvert quelques-uns, mais ils sont fanés avant l'heure.
Alors là, vous avez deux.
Et il y a même les feuilles là, qui étaient noires, elles deviennent jaunes et elles tombent.
Alors. Les boutons qui tombent et les feuilles, c'est pas la même. On pourrait penser que c'est la même chose, et non, ce n'est pas la même chose.
Non, donc, il fait des feuilles jaunes et les boutons qui tombent, ça tient pas. Quoi.
Alors, le fait que vous ayez les boutons et les feuilles jaunes, c'est le fait que votre arbre, il est mort de faim.
Ah bon ? Il est dans un grand pot. Je lui avais changé la terre l'année dernière, la terre de bruyère.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on leur met quand... Moi, je lui mets de l'engrais arbuste.
Non,
mais c'est vrai,
non. Il faut surtout pas mettre ça parce que comme il est dans la terre de bruyère, il lui faut un engrais pour plantes de terre de bruyère, ou mieux encore, pour le camélia, vous achetez du sang desséché corne torréfié. C'est vendu sous forme de poudre.
J'ai jamais mis.
Ouais, mais il faut en mettre souvent. Parce que votre arbre, là, il faut en mettre tous les 15 jours à peu près. Parce que si les feuilles jaunissent et que les boutons tombent, c'est parce qu'il n'a pas assez de réserve pour réussir à alimenter tout ça, à assurer la croissance.
D'accord. Parce que jusqu'à maintenant, il était bien dans son pot. L'année dernière, j'ai dit, allez, voilà, je vais le changer de pot. Je vais mettre un pot plus grand. Donc, j'ai changé la terre, je mets un pot plus grand.
Beaucoup plus grand ou un peu plus grand?
Quand il était dans son pot normal.
Vous l'avez pas mis un peu trop grand, le pot?
Non.
Combien de plus?
Lui, il est assez haut, hein. Non.
Combien avez-vous augmenté le diamètre?
Je sais plus parce que j'ai plus l'ancien pot.
À peu près.
Je sais pas. Peut-être 20 centimètres, peut-être.
Donc, cherchez pas plus loin. En fait, le pot, on l'augmente juste un petit peu. Donc,
moi, j'ai augmenté assez, hein. Oui,
ah ouais,
assez.
Mais quand vous l'augmentez un peu trop, l'arbre, il est perdu. Donc,
j'ai mis le pot le plus que je pouvais trouver dans le commerce, là. Vous savez, c'est un grand pot, c'est plus gros qu'une poubelle, hein.
C'est pour ça qu'on vous posait la question du Damien, parce que selon que ce soit 3-4 centimètres en plus ou plus de 20.
Non, je fais plus gros.
Ah oui.
Non,
c'est
alors
une erreur.
Ça partait d'un bon sentiment, mais en fait, votre arbre, là, votre arbuste, il est un petit peu perdu. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous le rebasculez dans un pot légèrement plus petit, et celui-là, vous le conservez bien pour dans 4-5 ans, à peu près. Uh-huh. Soit sinon, vous essayez, en lui apportant bien de l'engrais, etc., de l'aider à s'adapter à ce pot qui est trop grand pour lui.
D'accord. Moi, je lui mettais du pour arbuste, genre, vous savez, hibiscus qu'on a dehors.
Ouais, ouais. Mais
voilà, je lui mettais de l'engrais comme ça.
Le camélia, c'est une plante
c'est des boîtes
qui aime.
Que j'achète pour arbuste.
Mais le camélia, c'est une plante qui aime les sols acides. Et en fait, il y a certains engrais.
Ah oui, mais j'ai mis de la bruyère, ça, oui.
Voilà, mais il y a certains engrais qui ne leur conviennent pas. Moi, je vous le conseille, et ça marche vraiment bien, de faire un apport de sang desséché, corne torréfiée.
Et l'engrais d'hortensia, ça ne lui convient pas?
Je sais pas,
C'est acide aussi, hein.
Moi, je vous donne ce qui marche le mieux sur le camélia. Ça, c'est vérifié et approuvé.
Acheter ça et puis je vais essayer.
Et puis à la limite.
Ce que je vous demandais aussi, je voulais vous demander, maintenant qu'il a fini de fleurir, puisqu'il n'a pas fleuri, enfin il a fleuri mais il n'a pas gardé, quand il aura fini de laisser ses boutons, est-ce que je peux le tailler?
Non.
Non,
parce que vous allez, si possible, remettre dans un pot un petit peu plus petit et surtout ne pas le tailler si vous le laissez d'autant plus dans ce pot, quoi.
Même pas les...
Rien de rien.
La fumagure, comment
non,
vous dites ?
Non, la fumagine.
D'accord, même pas ?
Non.
Ah bon, d'accord.
Voilà,
je suis contente de ramasser ce qui tombe et de...
Voilà.
Bon, ben, j'ai bien fait parce que hier, j'ai dit je taille. Puis
non. Marie, appelez avant. Vous savez que c'est...
Voilà.
D'abord, on ne taille pas un vendredi.
Et bon, je vous appellerai aussi la semaine prochaine pour une autre chose.
Allez, ça
marche. Que je ne veux pas trop garder le truc. Pour un petit citronnier.
On fait comme ça, Marie. On se rappelle la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés ce matin et à samedi.
Sur RCFM, on est bien ensemble.
Simona, bonjour.
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 Moi, j'habite à Ajaccio et j'ai planté de persil et de l'aneth dans une pot. Et maintenant, je cherche à planter de l'ivèche. Et j'avais commandé quelques graines sur Amazon. Mm-hmm. Je les ai eues, je les ai plantées, mais c'est rien, elle n'a rien sorti.
Le céleri de montagne.
Alors, c'est céleri de montagne. Oui,
je pense que vous l'avez planté peut-être un peu à contre-saison.
D'accord.
Et je connais pas spécialement cette culture, mais il faut faire très attention parce que c'est une plante, je dirais, aromatique, et peut-être qu'elle a besoin d'être plantée plutôt à l'automne qu'au printemps.
Oui. D'accord.
Et ouais, parce que le céleri, en fait, les autres céleris, on les récolte maintenant. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Si vous voulez, ce que je fais, c'est une petite recherche. Et
ouais.
Je vous apporte la réponse parce que je pense que c'est ça. C'est plus, quand on a les graines qui ne germent pas, c'est plus un problème de planter à la mauvaise saison. Il n'y avait rien indiqué sur le sachet ?
Non, il n'y avait rien indiqué, mais parce que moi, je connais la plante. Donc, je sais que, comme je viens dans l'Europe de l'Est, chez nous, on peut le planter n'importe quand, à n'importe quel
Mais la grosse différence, c'est
le climat.
C'est le climat, voilà.
Ah, d'accord. Donc, c'est le climat. Oui, parce que c'est marqué qu'il pousse dans les zones humides et ensoleillées, donc pas de soleil. Et moi, je l'ai planté dans une pot sur mon balcon où il n'y a pas de soleil, où il est un peu humide. Donc, je pensais que ça marche, quoi.
Oui, mais...
apparemment, je ne crois pas.
Alors, d'après ce qu'on vient de trouver, là, ce n'est pas forcément une question de saison, mais je pense que c'est une question de climat.
Ouais, je crois que moi aussi.
Et vous devriez le mettre à l'ombre, bien le mettre un petit peu au frais. Mais ne jetez pas tout, continuez. Ça fait combien de temps que vous les avez mis en place ?
Mais je crois que ça fait presque 3 semaines.
Oui, ben vous continuez à arroser et mettez-les à l'ombre, le plus à l'ombre possible, parce que autant les graines vont redémarrer dans quelques temps.
Oui, je les attends toujours à démarrer, mais il n'y a plus rien de
plus. Un peu de patience, un peu à l'ombre et on voit ce que ça donne. Ça ne mange pas de pain.
Oui, oui. Mais par contre, on ne peut pas trouver en Corse des graines pour cette plante, pour planter. J'ai été à la gamme verte, j'ai été dans tous les magasins.
Vous avez fini par les commander sur Internet. Ouais. Ben
oui,
alors, peut-être à la bourse aux plantes des Chicassoirées. Là, l'appel est lancé puisque le 9 avril prochain, il y a comme ça un troc, un vide jardin qui vous est proposé pour toutes les bourses. Peut-être en trouverez-vous à cette occasion-là.
Et ça, c'était où ? C'est sur Ajaccio ou sur Bastia ?
Et Chicassoirées, là.
En remontant dans les gorges du Prunay.
D'accord, voilà.
Ça peut être une sortie.
Je vais voir.
Bah ouais. Et puis en plus, comme ça, vous rencontrerez d'autres jardiniers amateurs qui pourront peut-être vous renseigner un
et
petit peu.
Et même des pépiniéristes.
Oui, je pense que dans les pépiniéristes, il devait y avoir cette plante.
Alors voilà, le rendez-vous est donné.
Oui, c'est une bonne plante aromatisée pour la cuisine, quoi.
Ok, voilà. Simone, vous nous donnerez des nouvelles, vous nous tiendrez au courant.
Oui, il n'y a pas de souci. Dès que j'ai les nouvelles, je vais vous rappeler.
C'est gentil, passez une très bonne journée, un bon week-end.
Au revoir.
Il est 10h moins le quart, le temps passe vite. Mais nous avons encore un petit quart d'heure pour parler jardin.
Super.
On se retrouve après les Daft Punk au 04 95 32 22 22. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run.
Trying to get you high, fading off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love. We don't.
just a simple touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
À 9h49 minutes, soyez les bienvenus à l'écoute des programmes d'RCFM. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et parlons jardin avec Laetitia Agostini. On rejoint Jean à Sartène. Bonjour Jean.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, j'ai un jasmin blanc planté dans un gros pot. Depuis quelques années. Et à ma grande surprise, il est tout sec.
Ah, c'est pas normal, là.
Tout sec, c'est-à-dire il garnissait tout un grillage. Et toute la partie supérieure qui est entrelacée dans le grillage a séché.
Mais vous, ça l'a fait d'un coup, vous en êtes aperçu?
D'un seul coup, oui, tout à fait, d'un seul coup.
Ça fait longtemps que ça a fait ça, ou...
Trois semaines.
Il n'aurait pas pris un coup de gel au moment du froid, votre jasmin?
Oui, effectivement, parce qu'en fait, j'ai un hibiscus qui a capoté.
Voilà, ben, cherchez pas plus loin. Est-ce qu'il est encore vert à la base?
Ben, il est vert à la base.
Alors,
il commence à sécher également.
Ça m'étonne.
Les feuilles sont vertes, mais le bout des feuilles commence à sécher. Alors, est-ce que c'est une maladie cryptogamique ou...
Non. Il est en pot. Donc, en pot, les plantes elles résistent moins bien au gel parce que même les racines peuvent être atteintes par le gel. S'il y a eu un gros coup de gel, c'est la possibilité. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez à la limite le rempoter. Là, maintenant, vous allez lui supprimer toute la partie séchée en haut, vous allez le ratiboiser, mais vous pouvez y aller gaiement. Hein. Le jasmin, ça se remet bien. Puis de toute manière, comme il est sec, il est sec. Hein.
Ouais.
Et quand vous le rempotez, et d'une, ça va lui permettre de changer la terre, vous regardez que les racines ne soient pas chignonnées, c'est-à-dire enroulées au fond. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à couper, etc., éclaircir les racines. Et vous allez lui faire un petit peu des apports d'engrais. Donc pour cette année, la floraison, ben, c'est un peu foutu.
Là, il a fleuri du bas, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une rampe florale, une seule. Hein, une seule.
Mais c'est toujours mieux que rien.
Oui, c'est mieux que rien. Mais en fait, alors ce qu'il y a de bizarre, c'est que il a gelé, mais il a gelé il y a 3 mois.
Oui, mais je...
Il a gelé au mois de novembre. Et jusqu'à il y a 15 jours, il s'est bien comporté.
Il y a eu du froid, après, quand même. Ouais, là, ouais, en février.
Non, pas ici.
Vous l'aviez.
C'est descendu à -2, -3 au mois de novembre, mais après, on n'a pas eu de froid intense. Non.
Alors, il y a eu des neiges en janvier presque partout. À certaines, vous n'avez pas eu plus froid qu'à l'accoutumée. Ma foi.
Je pense qu'il a quand même pris un coup de froid, hein. Si ce n'est pas le gel.
Voilà, je vais suivre religieusement au conseil.
Jean, vous l'aviez protégé? Vous aviez mis un voile d'hivernage?
Non, je n'ai jamais protégé. Jamais.
Le problème, c'est que c'est vrai qu'on ne s'y attend pas nécessairement et quand ça chute d'un coup...
Mais après, d'autre part, si c'est une maladie cryptogamique, ça peut être une maladie au niveau des racines. Donc, le fait de le rempoter, ça permettra aussi d'assainir tout ça. Parce que peut-être qu'il n'a pas été rempoté depuis un moment et il y a
Ce sera la solution à tous vos problèmes, quels qu'ils soient, Jean.
D'accord, écoutez, je le rempote toujours le même truc, quelques centimètres de plus.
Voilà, exactement.
Voilà, oui, qu'on vous écoute. Hein.
Merci Jean pour votre intervention, une grosse bise. Au revoir.
Sur RCFM, on est bien ensemble.
Jacqueline, vous êtes à Ajaccio. Bienvenue, on vous écoute.
Oui, bonjour. Alors, j'ai un problème. On m'a offert une belle orchidée, mais je ne sais ni l'exposer, ni l'arroser.
Et Jacqueline, on est les personnes qu'il vous faut. On est des pros de l'orchidée. Ça va bien se passer et vous allez la rendre jolie. Letty, l'exposition.
Alors, l'exposition, vous allez la mettre dans un endroit lumineux, mais de manière à ce qu'elle ne prenne pas la lumière directe. C'est-à-dire que vous la posez dans le salon ou autre, un peu éloigné de la fenêtre, mais il faut que ce soit lumineux. Ensuite, pour l'arrosage, c'est tout simple. Si elle n'est pas dans un cache-pot trop fermé ou autre, si on vient de vous l'offrir, chaque semaine, vous la mettez à bassiner dans l'évier ou dans une cuvette pendant à peu près une demi-heure. Ensuite, vous la laissez égoutter, vous la remettez exactement dans la même position que celle qu'elle avait avant que vous la mettiez à bassiner.
Et voilà. Pas d'humidité, pas d'eau sous la soucoupe, évidemment.
On la trempe, on la laisse un peu égoutter, on la remet à sa place. Et si elle était tournée les feuilles vers nous, on lui remet les feuilles vers nous. On ne fait pas comme pour les autres plantes vertes où parfois on fait un quart de tour par semaine pour que le feuillage se développe de manière harmonieuse. Non, là, on la remet exactement à la même place.
Et pour l'engrais, enfin ?
Pour l'engrais, pas d'engrais.
Tout simplement. Merci beaucoup, Jacqueline. Ça va bien se passer, n'en doutez pas. Laetitia est une professionnelle de l'orchidée.
Bon.
Oui, oui, vous allez bientôt les revendre, j'en suis sûre. Françoise, à Santa Lucia di Mercurio. Bonjour Françoise.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Ouais, ça serait à propos d'un cyclamen qu'on m'a offert il y a 3 semaines. Magnifique, fleurs, tout. Maintenant, il reste encore quelques petites fleurs et elle bourgeonne aussi. Mais j'aimerais savoir si on peut la mettre dehors, si on peut la planter dehors dans le jardin.
Vous allez encore attendre un petit peu.
Oui.
Parce que le cyclamen, effectivement, même à Santa Lucia, ni Mercure, il n'y aura pas de souci. Sauf que là, il a été un petit peu forcé, il a été un petit peu boosté en serre. Donc, ce que vous faites, c'est que tant que vous l'avez dedans, vous continuez à l'arroser, à lui mettre de l'engrais pour lui permettre de maintenir les fleurs, etc. Et quand on est vraiment revenu dans des températures douces, vous pourrez le remettre dehors.
Et voilà. On peut le mettre, il faut le mettre dans un endroit pas trop exposé ou
pas trop exposé, un petit peu ombragé et voilà, ça ira parfaitement.
Et il n'y a pas besoin de soins spéciaux,
Non, le cyclamen, on le trouve beaucoup à l'état sauvage quand on se promène par là. Donc,
oui.
Pas de souci.
C'est vrai. Bon, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions de votre appel. Au revoir Françoise.
Au revoir.
Salut à tous.